Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce vendredi 23 octobre, 38 nouveaux départements se préparent à rejoindre ceux qui, depuis une semaine, appliquent le couvre-feu. Des mesures prises hier par le gouvernement pour freiner la progression du virus. Plus de 15 000 cas en 24 heures et pas moins de 165 décès. Dans un instant, nous irons à Valenciennes, dans le Nord, justement, où la situation devient là très tendue. Comme à Lyon et sa région, nous ferons le point sur l'organisation du monde médical face à cette crise sans précédent. Une crise qui n'épargne pas notre économie, loin de là. Tout pour éviter en tout cas un reconfinement pour l'instant. On fera le point avec Martial Liu dans le monde économique. En ce moment, à l'Élysée se tient un nouveau conseil de défense consacré à l'antiterrorisme. Nous irons sur place retrouver dans un instant Vincent de Rosier. Dans cette période empreinte de morosité, pas facile, c'est vrai, de trouver des clés pour conserver la confiance, l'optimisme, le professeur Michel Lejoyeux sort un ouvrage qui s'appelle « Les quatre temps de la Renaissance » pour nous aider justement. Eh bien, il sera avec nous dans un instant, dans 10 minutes maintenant sur RTL en direct en studio. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Manquerait plus qu'il fasse, gris et maussade, non?
Voilà, c'est ça. Okay. Sauf qu'il fait doux, ça c'est la petite pointe positive pour le coup cet après-midi. Les températures restent quand même assez élevées pour la saison. 16 degrés à Strasbourg et en Berlieu, 17 à Caen, 18 à Abbeville, à Orléans, à Paris, à La Rochelle, 19 à Biarritz, 24 degrés à Ajaccio. Un ciel chargé et des pluies, surtout en Rhône-Alpes et près de la Méditerranée. Et sinon, ça va concerner une grosse moitié est du territoire. Pour le soleil, rendez-vous à l'ouest, entre la Charente-Maritime, les Pays de Loire, en remontant vers le nord, donc en passant par l'Île-de-France et la Normandie. C'est là qu'on a les meilleures chances d'éclaircir cet après-midi.
Merci à vous tout à l'heure, en tout cas. Avec grand plaisir. Le duel du jour, la question du jour autour, justement, de cette question que vous retrouvez sur RTL.fr. Covid-19, êtes-vous prêt à tout faire pour sauver Noël? Vous dites oui pour l'instant à 54% et non à 34%. En attendant vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christophe Paco. Une deuxième vague pire que la première. C'était les mots de Martin Hirsch au micro d'Alba Ventura. Évidemment, on va parler de cela tout à l'heure avec cette question que vous venez d'évoquer. Les Français vont-ils devenir raisonnables? Est-ce qu'on est prêt à faire peut-être plus d'efforts pour sauver Noël, pour sauver nos emplois? Ça dépend de nous, a dit le Premier ministre. L'exécutif doit-il au contraire aller plus loin? Est-ce tabou de parler de reconfinement? Est-ce inévitable? Toutes ces questions, nous pourrons les aborder entre 13h et 14h.
A tout à l'heure, juste avant 13h, Pascal Praud, les auditeurs en parlent. La parole et le duel, bien évidemment, à partir de 14h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Ce soir, minuit, ce sont donc 46 millions de personnes qui devront respecter le couvre-feu, déjà mis en place depuis 6 jours maintenant dans 9 de nos métropoles. Désormais, 54 départements sont concernés. Comment les nouvelles régions, les nouvelles villes aussi acceptent cette décision? Direction ce midi Valenciennes, où on va retrouver sans plus tarder Antoine de Carne. Là, la situation se durcit chez vous à Valenciennes, Antoine.
Oui, et du coup, on tente d'encaisser ces nouvelles mesures. Dans son bar, Vincent regardait déjà ses habitués du matin avec nostalgie.
C'est terminé. On a réussi à survivre jusqu'à maintenant. Demain, c'est pour qu'on se rende compte.
Car il faudra à s'adapter. Comme la plupart des bars de la ville, il créera un service restauration pour rester ouvert.
Là, on va ouvrir en 11h pour le service du midi. Après, on ne sait pas si on peut rester ouvert l'après-midi en faisant des gaufres, des desserts. Savoir est-ce que c'est encore rentable ou pas, quoi.
Également cafetier, Frédéric est dans une toute autre situation. Si le service PMU ne fonctionne pas, c'est terminé pour son établissement.
Garder les commissions PMU pour m'en sortir, sinon là, je ferme après. On vit au jour au jour. Sur redressement judiciaire, là, si je ferme là, c'est mort. Là, c'est la fin.
Et plus globalement, sur ce couvre-feu, les Valenciennois sont partagés. Certains sont inquiets des nouvelles mesures.
On le vit très mal. Hein. C'est de la colère, ouais, ça m'énerve. Parce que là, il va y avoir des millions de personnes au chômage. Tout le monde a peur pour son travail.
Et d'autres plutôt rassurés.
Par rapport au confinement qu'on a déjà eu, je pense que c'est la meilleure décision qui pouvait être prise actuellement. Mais après, à voir si elle aura des effets positifs.
Et il le faut car la situation est délicate ici. L'unité Covid de l'hôpital de Valenciennes est pleine et un passage en plan blanc est déjà plus qu'envisagé.
Antoine de Carne à Valenciennes, merci à vous. Dans le département donc du Nord pour RTL. Mise en place, mesures de précaution, déprogrammation d'opérations non urgentes. Dans plusieurs régions, ce matin, c'était la phase d'explication, comme à l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes, l'un des secteurs géographiques les plus touchés en ce moment, Nerissa Imani.
Et oui, depuis 2 semaines, le nombre de contaminations a presque doublé dans toute la région, à l'image du taux d'incidence, 450 cas pour 100 000 habitants, c'est 4 fois plus qu'au début du mois de septembre. La Loire, l'Isère et le Rhône sont les départements les plus touchés. Conséquence, ce matin, on compte 2500 hospitalisations dans la région et 90% des lits de réanimation sont occupés. Pour faire face, l'ARS a demandé hier à tous les hôpitaux privés et publics de la région de déprogrammer les opérations non urgentes. L'ARS qui compte aussi sur des transferts de patients dans des régions limitrophes pour désengorger les hôpitaux. Un transfert est prévu dès demain en Nouvelle-Aquitaine. Autre solution pour enrayer la propagation du virus, les dépistages qui continuent d'être en augmentation, plus de 220 000 cette semaine. Des tests antigéniques seront également prévus dans les universités. Et à la rentrée, universités et EHPAD, qui sont les principaux clusters de la région, l'ARS y constate une mauvaise application des gestes barrières.
Merci à vous, Nerissa Imani, en direct de Lyon pour RTL. On le rappelle donc, 41 000, on est très précis, 622 nouveaux cas de Covid dépistés les dernières 24 heures. Ça fait donc un bond de 15 000, c'est un triste record, 15 000 cas supplémentaires et pas moins de 165 malades du Covid qui sont décédés dans les toutes dernières 24 heures. Et puis Martin Hirsch, ce matin sur RTL, le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris a estimé la possibilité d'une deuxième vague plus redoutable et même pire que la première.
Il y a eu la perception depuis quelques mois que soit la deuxième vague n'existait pas, soit que c'était une vaguelette. La réalité est l'inverse. Il est possible que la deuxième vague soit pire que la première. Vous savez, c'est un peu comme le tsunami, il y a un premier mouvement, puis l'eau se retire loin, les gens vont sur la plage en pensant que c'est fini, et puis tout d'un coup, il y a la lame de fond. La deuxième vague peut se caractériser comme étant une lame de fond. Je pense qu'il y a certaines régions déjà qui anticipent qu'ils seront à un niveau supérieur à celui qu'ils ont connu début avril au moment du pic.
Martin Hirsch, invité ce matin d'Alba Ventura sur RTL. Les 2/3 de la population soumise ce soir au couvre-feu à partir de minuit pour les nouveaux départements concernés. Avant, selon la situation sanitaire, un couvre-feu qui pourrait débuter pourquoi pas à 19h, voire, on imagine, on en parlait tout à l'heure déjà, un reconfinement général. Ce qui semble clair, Martial Youb, bonjour à vous.
Bonjour.
C'est que le gouvernement semble tout faire pour éviter une catastrophe économique.
Oui, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est un peu comme l'éco-conduite. Le gouvernement pilote en évitant les à-coups. Le couvre-feu va représenter une ardoise de 2 milliards pour 6 semaines, a dit Bruno Le Maire ce matin. C'est beaucoup parce qu'il faut généraliser aux 2/3 du pays les mesures du fonds de solidarité, prolonger la prise en charge du chômage partiel, les exonérations de charges. Tout ça a un coût, bien sûr, mais qui est beaucoup moins important que si on reconfinait totalement. Bercy a estimé que mettre à nouveau l'économie brutalement à l'arrêt, ça coûterait 15 à 20 milliards, donc 10 fois plus que le couvre-feu. On réduit progressivement la vitesse de notre économie. On voit que l'intérim marque un peu le pas depuis septembre, que le moral des patrons retombe. Ce sont des signaux, ça, dû de la baisse d'activité. Les services comme la restauration, la culture ou les emplois à domicile sont impactés, mais pas les usines qui continuent à tourner. Donc, vous le voyez, on évite de bloquer les roues, oui, en ce moment, et on espère toujours repartir dès que les incertitudes sur la maladie seront levées. Le gouvernement a un espoir. Sur l'été, on a vu que l'activité était repartie plus fortement que prévu. On espère la même chose, mais en 2021.
En 2021, bien sûr. Merci beaucoup, Martial Youb, chef du service économique et social d'RTL. Les 12h38, et pour aller plus loin, et pour trouver des solutions les plus optimistes possibles en ces temps de crise, avec nous en studio, aujourd'hui, le professeur Michel Lejoyeux, chef de service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat. Vous êtes auteur du livre « Les 4 temps de la Renaissance » aux éditions Jean-Claude Lattès, qui vient de sortir à 48 heures. Bonjour professeur.
Bonjour.
Ravi de vous avoir en studio aujourd'hui, parce qu'on va essayer de redonner un petit peu de baume au cœur aux Français en vous écoutant, en tout cas on l'espère. C'est pourquoi on vous invite aujourd'hui. Vous êtes un peu à contre-courant quand même, parce qu'on vient d'écouter Martial Youb, on vient d'écouter Martin Hirsch, les reportages en région. On est vers un couvre-feu peut-être qui va augmenter, voire presque un reconfinement. Un deuxième confinement en une année, ce serait beaucoup trop pour les Français ?
En tout cas, je ne suis pas du tout à contre-courant. Je travaille à Bichat, je partage cette inquiétude considérable, mais je pense qu'il faut avancer de 2 manières. En appliquant les gestes barrières, en diminuant la circulation du virus et tout ce qui le permet est utile et nécessaire, et en même temps, on se protège du virus, il faut aussi qu'on protège un peu son esprit. D'accord. Moi, ce que j'ai cherché...
Non, mais quand je dis à contre-courant, c'était pas péjoratif, c'est-à-dire que vous sortez un ouvrage pour qu'on ait un peu plus de sourire. Mais c'est compliqué quand on entend toutes ces nouvelles, vous êtes d'accord avec moi en ce moment.
Oui, mais c'est
comprenez
juste...
l'auditeur qui est partout en France.
C'est justement dans les moments dans le monde où spontanément on n'a pas envie de sourire. Vous savez, oui, c'était Alain qui disait il y a bien longtemps, le pessimisme l'optimisme est de nature, l'optimisme est de combat. Donc je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a quelque chose d'un combat personnel avec des petites idées simples qui peut relancer un peu l'optimisme.
Alors vous dites 4 temps aujourd'hui de la renaissance. Vous prenez quoi ? C'est des temps, c'est l'adolescence, ce sont les seniors ou ce sont les 4 temps de la conjugaison ?
Ce sont les 4 temps de la conjugaison. Au fond, cette angoisse nous a bouleversés avec un passé très récent qui continue à nous faire peur, un présent dont on n'arrive pas à profiter, un futur dont vous l'annoncez tous les jours, vous voyez, oui. qui sait ce qui va être, et un dernier temps que je propose de déguster, qui est le gérondif.
Le fameux gérondif.
Le temps de l'instant présent, le temps de en mangeant, en marchant, qu'est-ce qu'on peut faire d'agréable dans ce moment-là.
Il y avait un participe présent dans le gérondif à l'époque.
Absolument.
Hein, c'est ça.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on peut faire justement aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut respecter ces mesures barrières, vous l'avez dit, ou est-ce qu'on peut trouver du sourire, c'est en faisant des soupers plus tôt, c'est en reconstruisant notre façon de vivre aujourd'hui aussi ?
C'est en développant quelques qualités qu'on a longtemps prises pour des défauts.
Dites-moi.
Par exemple, la nostalgie, vous voyez, vis-à-vis du passé. On s'aperçoit que la nostalgie est un facteur un peu protecteur. Si vous avez des vieux vinyles, des vieux disques, finalement, tous ces souvenirs d'avant la pandémie que vous pouvez garder et qui vont finalement vous aider à dépasser ce passé. Toute petite chose où on peut écrire son passé, sur le présent, par exemple. On a été longtemps à vous dire, il faut être dans l'attention à l'instant présent. Vous voyez que si on est dans l'attention, là, l'attention qu'on porte, c'est sur des choses très angoissantes. Donc on s'aperçoit qu'on a une capacité cérébrale, c'est laisser son esprit vagabonder, ce qu'on appelle en anglais le mind wandering, et on s'est aperçu que ceux qui étaient capables de se décrocher pendant 10 minutes, ceux qui faisaient ce petit exercice, vous savez, je ne propose pas de miracle.
Non, mais on l'a déjà fait pendant le confinement, pendant la première phase, on est d'accord. On a déjà essayé.
On a déjà essayé.
On est allé embrasser des arbres, on a tout fait. On a
non,
tout tenté,
mais c'est
non,
pas assez. si je peux me permettre, embrasser les arbres, ce n'est pas complètement validé.
Et serrer dans ses bras.
Deux, aujourd'hui, où nous sommes dans une politique de santé, il faut aussi s'occuper de la santé de son esprit. Vous savez, il y a quelques temps, on n'en aurait peut-être pas parlé.
Ça veut dire que je lis plus, j'écoute plus la radio, j'écoute plus RTL. Qu'est-ce que je fais de plus ?
Ah, ça, évidemment, vous écoutez plus
d'accord.
RTL. Vous
un peu plus de Grosse Tête, par exemple.
Si j'avais dit l'inverse là. Oui. Mais vous faites, vous appliquez. C'est à ce moment-là que nous, les médecins, pouvons servir à la fois à traiter les malades, à ne pas être dans le déni de la maladie, et à proposer des petites mesures de prévention.
Vous dites même un petit côté canaille.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ceux qui étaient un peu chercheurs de sensations, un peu transgressifs, finalement, ils s'en sortaient mieux. Vous voyez, ceux qui ont eu
chacun ses barrières à sauter, alors.
Voilà.
Si je peux me permettre.
Totalement
oui, parce
réglé.
Que les barrières sanitaires, on les conserve, mais les autres, on peut tenter de temps en temps.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer. On a besoin d'un peu de nouveauté, quand même. Un nouveau livre, une nouvelle personne qu'on connaît, un nouveau repas, un nouveau vêtement. Vous voyez, demain, lundi, vous arrivez avec une veste d'une couleur qui
tout
est
monde
absolument
dit, vous
pas
êtes
la
beau vôtre. Professeur, voilà. Non, je comprends bien la petite idée, les petites choses qui peuvent nous faire changer.
Les petites choses validées. Moi,
validées.
J'insiste
valide
là-dessus.
Aussi.
On est dans un domaine où il y a eu énormément de conseils non validés. Moi, ce que j'ai essayé de retrouver, c'est ce qui peut être validé au plan médical et au plan biologique et qui peut nous aider.
Et sauver Noël aussi, c'est important dans la tête de beaucoup.
Bien sûr.
Ça, c'est le futur. Voilà, gérondif qu'on disait tout à l'heure. Les 4 temps de la Renaissance aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'être venu jusqu'à nous, professeur Michel Lejoyeux. On a hâte, mais même pourquoi pas dès ce week-end, d'adopter vos principes et puis les lire surtout.
Oui, et puis, puis d'en vivre un peu de sérénité. Merci.
Merci mille fois d'être venu jusqu'à nous en studio RTL ici à Neuilly. Dans un instant, on va parler du terrorisme et un nouveau conseil de défense qui se tient en ce moment à Élysée. C'est Vincent de Rosier qui est sur place pour le service politique.
RTL Midi. RTL Midi
avec Christophe Pacaud.
Et à 12h46, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine, ce matin, à l'Élysée, se tient un nouveau conseil de défense sur l'antiterrorisme. Un conseil que vous suivez pour nous, Vincent de Rosier. Bonjour.
Oui, bonjour. Conseil de défense qui est maintenant terminé à l'Élysée. Près de 2h30 de réunion présidée par Emmanuel Macron. Autour de la table, le Premier ministre, bien sûr, mais aussi Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, Florence Parly, Bruno Le Maire ou encore Jean-Michel Blanquer. Jean Castex, lui, va prendre la parole dans quelques minutes. Il devrait annoncer deux choses. D'abord, un meilleur encadrement des réseaux sociaux. On en parle depuis plusieurs jours avec la probable création d'un délit de mise en danger par la publication de données personnelles. Mais aussi et surtout le fameux délit de séparatisme. Pour le dire simplement, il s'agit de se donner les moyens de sanctionner tout propos violent. Une violence caractérisé, qui crée chez ceux qui l'écoutent un état d'esprit propice à un éventuel passage à l'acte terroriste. Différentes peines sont prévues, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, mais l'exécutif est bien conscient du trou de souris juridique dans lequel il tente de s'engager, car d'abord il faut réussir à qualifier ses propos, ce n'est pas facile, toutes les critiques exprimées sur les réseaux sociaux ou ailleurs ne tomberont pas sous le coup de la loi, vous l'avez compris. Et l'autre risque, c'est le délit d'opinion, entraver la liberté d'expression avec le risque de censure du Conseil constitutionnel.
Merci à vous Vincent Derosier, à l'intérieur même de la salle où se déroule évidemment ce Conseil de défense sur l'antiterrorisme. Vincent Derosier, service politique d'RTL. La suite du procès des attentats de janvier 2015 et l'audition ce matin de Sonia M, une revenante comme l'on dit de Syrie. Elle affirme que son ex-mari, djihadiste mort en 2016, était le commanditaire de l'attaque de l'hypercacher. Cindy Hubert sur place.
Oui, la jeune femme qui apparaît à l'écran sait que ces mots sont particulièrement attendus. L'avocat général a réclamé son audition au tout début de ce procès, promettant des déclarations d'une importance fondamentale. La cour est donc suspendue à ses lèvres. Sonia ne se démonte pas. Elle confirme qu'elle a été mariée avec un certain Abdel Nasser Ben Youssef en Syrie, un Tunisien très haut placé au sein de Daesh, émir des opérations extérieures. Mais ça, je ne le comprends pas tout de suite, dit la jeune femme. Sonia est cantonnée à son rôle de maîtresse de maison. Jusqu'à ce jour où son mari rentre furieux. Ses supérieurs voulaient tout précipiter. Ils n'étaient pas d'accord. C'est à ce moment-là que Ben Youssef se confie. Il m'explique qu'il s'est occupé d'organiser l'attentat de l'hypercacher et qu'il avait recruté Hamedi Coulibaly. C'est lui aussi qui était derrière l'attaque ratée de Sidamed Glam et de la cellule belge de Verviers. La jeune femme fait une pause. Je n'ai pas plus de détails. Je suis désolée. Abdel Nasser Ben Youssef est aujourd'hui donné pour mort au combat après une blessure à la jambe dans l'enclave de Baghouz. Sonia, elle, réussit à s'enfuir d'un camp tenu par les Kurdes, tout comme Hayat Boumediem, la femme d'Hamedi Coulibaly. C'est la toute dernière personne à l'avoir vue vivante à l'automne 2019. La djihadiste est alors encore à fond dans Daesh, assure Sonia. Avant de disparaître de l'écran, la témoin souhaite s'adresser aux journalistes de Charlie Hebdo. Vous représentez la liberté, c'est ce que Daesh déteste le plus. Ne lâchez pas, continuez.
Cindy Hubert, merci à vous au Palais de Justice de Paris. L'interpellation ce matin d'un ressortissant italien de 52 ans près de Mulhouse. Il est soupçonné d'avoir commis 152 viols et agressions depuis 14 ans. Allez, une petite pause et dans un instant, les États-Unis, les USA et le tout dernier débat la nuit dernière entre les deux candidats à la présidentielle américaine. On va retrouver sur place Philippe Corbet dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi
avec Christophe Paco.
12h52 dans RTL Midi, à 11 jours de l'élection présidentielle américaine. Dernier débat la nuit dernière à Nashville dans le Tennessee entre le président candidat Donald Trump et Joe Biden, son rival. Pas de grandes envolées ni de réels vainqueurs, Philippe Corbet.
Oui, chacun des deux a marqué des points et Donald Trump, meilleur qu'il ne l'a été depuis le début de cette campagne, a rappelé aux Américains la clé de l'élection 2016. Ils l'ont élu car il n'était pas un politicien de Washington.
C'est que du blabla, il n'y a pas d'action avec ces politiciens. C'est ce que je vais faire quand je serai président. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous dites, je vais faire ceci et cela. Vous savez, Joe, avec vous, c'est que du blabla, pas d'action. Moi, je ne suis pas un politicien typique, c'est pour ça que j'ai été élu.
Mais on peut prendre cette élection dans tous les sens. Ça reste d'abord et avant tout un référendum sur Trump, et d'ailleurs le président a tout fait pour ça. Pour Joe Biden, c'est ça la clé de l'élection 2020.
You know who I am. Vous savez qui je suis, vous savez qui il est. Vous connaissez son caractère, vous connaissez mon caractère. Vous connaissez ma réputation, l'honneur, dire la vérité. Le caractère du pays est en jeu, notre caractère est en jeu.
Le désavantage de Trump, distancé par Biden dans les sondages, c'est qu'il ne reste que 11 jours et près de 50 millions d'Américains ont déjà voté, soit un tiers de la participation attendue.
Ouais, particularisme américain. Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis. Après une semaine d'arrêt, les négociations post-Brexit pour tenter de parvenir un accord commercial reprennent aujourd'hui entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et puis, les 80 ans d'une légende du football, le roi Pelé.
Camino Pelé, a
Merci à Nicolas Jean-Jaureau du service des sports d'avoir retrouvé cet extrait. Et ce but, c'est le millième but avec Santos de Pelé. Cette chanson que vient d'enregistrer Pelé avec des vedettes brésiliennes. Pour ses 80 ans, c'est pas beau ça, Pascal Pro?
Avec Santos ou avec Vasco de Gama, son millième but?
C'était contre Vasco de Gama, non?
C'était contre Vasco de Gama.
En 69. Vous avez fait du sport pour une époque? Non, Pascal Pro.
Pelé!
Et la chanson dit, écoutez bien Pascal Pro, c'est pas pour vous. Hein. Toujours écoutez le vieil homme.
Écoutez, on s'en rapproche.
La Ligue 1 ce soir, le retour. Ce sera sur RTL évidemment avec Rennes, Angers à 21h dans RTL Foot. Pascal, vous allez dialoguer dans quelques instants comme le veut la tradition évidemment au 32-10 avec les auditeurs. Qu'est-ce qui vous a frappé aujourd'hui?
Ce qui m'a frappé, c'est la phrase de Martin Hirsch ce matin au micro d'Alba Ventura. Je trouve que c'est... Elle est terrible cette phrase. La deuxième vague sera peut-être pire que la première. Donc ce n'est pas n'importe qui Martin Hirsch. Il représente les hôpitaux de Paris, oui. Il les dirige. Donc c'est ça qui me frappe. Donc forcément, on va parler de cette phrase. Et puis on parlera également de la question que nous posons. Est-ce que vous êtes prête à tout pour sauver Noël? Ça veut dire quoi, est-ce que vous êtes prête à tout? Est-ce que vous êtes prête à faire davantage attention? Ne peut-être pas recevoir d'amis, ne pas les voir, emporter le masque toujours et tout le temps, y compris parfois dans la cellule familiale. C'est moi, ça. Je connais des gens désormais qui disent « Je porte le masque avec mes enfants. »
Je vous écoutais hier avec le maire de Clermont-Ferrand, c'était la question que vous lui posiez.
C'est ça qui est terrible d'ailleurs, puisqu'on nous dit le virus se contamine dans la cellule familiale. Alors, on ne peut pas obliger les gens, bien sûr, à porter le masque.
32
mais certains le font.
Pour évoquer évidemment tous ces sujets, ce grand sujet d'actualité avec Pascal Proix tout à l'heure, Pascal, dans quelques secondes. La météo, le retour de Valérie Quintern attend.
Oui.
Tiens donc, des grosses pluies dans le sud cet après-midi.
Oui, c'est vrai que ça va commencer à s'activer assez sérieusement en région Rhône-Alpes, principalement, ainsi que près de la Méditerranée. On a encore quelques pluies qui circulent aussi vers le massif central et le nord-est. Alors, c'est précisément dans l'est et dans le sud que le ciel restera vraiment très, très chargé cet après-midi. A contrario, on a une belle chance d'éclaircie de la Charente-Maritime, de la Vendée et des Pays de Loire en montant vers le nord, en passant par la Normandie et par l'Île-de-France. Les températures cet après-midi restent douces, malgré tout, même sous la pluie. 16 degrés à Mulhouse, 18 à Lille, à Paris, à Grenoble, 19 au Mans et à Toulouse et 21 degrés attendus à Marseille.
Et ce week-end, tout pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On reste au lit? On change d'heure quand même, hein, s'il faut l'oublier.
Donc on va pouvoir rester au lit un peu plus longtemps, ça tombe bien. Alors pour autant, quand même, le soleil va revenir demain dans le sud, entre l'Aquitaine, la Méditerranée, mais aussi de la région Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace, partout ailleurs, donc sur un très large car nord-ouest, un ciel bien couvert, des averses fréquentes, des vents assez forts, des températures qui ne vont pas beaucoup bouger. On va garder à peu près les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Et puis dimanche, une nouvelle dégradation va arriver. On aura de bonnes pluies près de l'Atlantique en glissant jusqu'aux Ardennes. Et à l'avant, toujours dans l'est et dans le sud, là, on aura un petit peu plus de chances de soleil avec des températures qui se maintiennent aussi pour la journée de dimanche. Bien. C'est vraiment la consolation du week-end.
La petite douceur qui vous va bien, Valérie Quintin.
J'allais le dire.
Merci mille fois. Dans l'instant, le rappel des titres, puis Pascal Pro.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Êtes-vous prêt à tout pour sauver Noël? C'est la question que nous posons. Nous sommes avec Cédric, chef d'entreprise à Bourg-en-Bresse. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie. Il faut reconfiner.
Bah écoutez, c'est direct, si j'ose dire, c'est pas très joyeux. Contrairement au professeur qui était tout à l'heure présent avec notre
professeur
camarade
Le
Paco,
Joyeux, justement.
Bien sûr, j'ai écouté, ça m'a redonné, non pas le moral, mais en tout cas des pistes.
Trouver des clés.
Christophe Paco, le rappel des titres.
Avec justement 38 nouveaux départements qui se préparent à appliquer ce soir le couvre-feu nocturne, au moment où le niveau de contamination atteint des records en France. La France touchée, vous le savez, de plein fouet par cette deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Et puis en cas d'aggravation, le gouvernement devrait envisager des mesures beaucoup plus dures, selon le Premier ministre Jean Castex, qui assiste en ce moment à un nouveau conseil de défense qui vient de se terminer, nous disait Vincent de Rosier à l'Élysée, et ce, une semaine après la mort de Samuel Paty. De grandes décisions, selon les propos de tout à l'heure de Vincent de Rosier, envoyé spécial évidemment pour RTL, un meilleur encadrement des réseaux sociaux et puis la création d'un délit de séparatisme pour sanctionner des propos violents ou propices au passage à l'acte terroriste avec des peines d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende qui seraient demandées. Un Italien de 52 ans est interpellé aujourd'hui à Römersheim-le-Haut, tout près de Mulhouse, à la suite d'un mandat européen lancé par l'Allemagne où il est soupçonné d'avoir commis 160 viols et agressions
sexuelle. L'économie, le groupe ADP qui a perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Et l'équipementier télécom, lui, finlandais, Nokia, qui a annoncé des projets qui visent à réduire l'impact de son plan social en France, dont l'ouverture notamment d'un centre de cybersécurité à Lannion, ce qui pourrait offrir en tout cas 112 nouveaux postes, création de postes pour une fois, dans un monde bien morose de l'économie, Pascal Praud.
Merci Christophe, nous sommes donc avec Cédric.